Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. C'est toujours l'incertitude qui règne en Allemagne après l'échec dimanche soir des négociations pour former un gouvernement. Conservateurs, verts et libéraux se sont montrés incapables de s'entendre. Tous les scénarios sont encore sur la table, formation d'un gouvernement minoritaire, nouvelles élections et même, pourquoi pas, une grande coalition de nouveau entre la CDU de Angela Merkel et les sociaux-démocrates de Martin Schulz. Et qu'en est-il des deux partis qui n'ont pas participé aux négociations, les populistes de Alternative pour Deutschland se frottent les mains, tandis que la gauche radicale mise sur une recomposition du paysage politique allemand. Reportage de notre correspondant à Berlin, Julien Michossi.
Es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren.
Mieux vaut ne pas gouverner que mal gouverner, une déclaration prononcée par le président des libéraux du FDP, Christian Lindner, qui a plongé l'Allemagne dans une crise inédite. Pas habitués à l'instabilité politique, les partis doivent à présent revoir leurs plans et leurs stratégies en cas de nouvelles élections. Un constat qui ne vaut pas pour l'AfD, le parti populiste qui a fait une entrée fracassante au Bundestag en septembre dernier avec une centaine de députés. Au contraire, l'échec des négociations leur permet de renforcer leur position et d'attaquer de front la chancelière, comme le souligne le député de l'AfD, Norbert Kleinwächter.
Une de nos propositions centrales, c'était vraiment de remplacer Madame Merkel par une autre chancelière ou un autre chancelier. Et donc, c'est pour ce qu'on travaille. Et déjà, il y a beaucoup de journaux qui ont titulé que c'est vraiment la fin de Madame Merkel. Parce que, effectivement, c'est une grande, grande perte pour elle. Elle n'aura pas la majorité quand elle veut se faire élire ici au Parlement.
Car la possibilité d'un gouvernement minoritaire n'est toujours pas écartée, avec notamment une alliance entre la CDU de Merkel et les libéraux. Un scénario peu probable, selon Anne-Catherine Müller, journaliste politique à l'hebdomadaire de référence Der Spiegel, et qui a suivi de près les négociations.
Ce n'est vraiment pas le style de Merkel. Elle serait obligée de trouver pour chaque projet de loi une nouvelle majorité. Et je ne vois pas Merkel se justifier au Parlement, puis aller quémander des voix chez les libéraux, au SPD ou chez la gauche radicale, et dire « s'il vous plaît, votez pour moi ». C'est inimaginable.
Du côté de Die Linke, la gauche radicale et autres partis n'ayant pas participer aux négociations, cette crise politique est vue comme une opportunité pour la gauche de se rassembler. Martina Renner, députée de Die Linke.
Pour nous, la situation n'a pas changé. Nous cherchons des partenaires au Parlement afin de former une alliance. Nos objectifs restent les mêmes. Changer notre politique sociale, notre politique en matière d'emploi et notre politique extérieure. Et avec ce qui vient de se passer, nous observons ces partis qui n'ont eu de cesse de draguer la CDU. Les mêmes partis qui sont désormais dans l'obligation de changer de stratégie électorale.
Martina Renner vise ici les sociodémocrates du SPD et les Verts, un rassemblement de la gauche qui constituerait une mini-révolution dans le paysage politique allemand.
Les lignes vont-elles bouger du côté du SPD? Les Verts sont-ils prêts à changer leur fusil d'épaule? Vont-ils continuer à miser sur une coalition avec la CDU comme lors de la dernière campagne? Ou vont-ils s'ouvrir à une alliance de centre-gauche? Le SPD va-t-il rester sur ses positions en rejetant une grande coalition? Ce parti dit qu'il souhaite enfin redevenir le parti des travailleurs et des laissés pour compte. J'espère que ce n'est pas que de la tactique politicienne et que le SPD va enfin passer aux actes.
Une gauche radicale prête à renverser la table d'une part et de l'autre les populistes de l'AfD qui se réjouissent de la perspective de nouvelles élections.
On ne peut pas dire aux électeurs on n'aime pas votre résultat, donc allez au scrutin de nouveau. Et ça ne marche pas avec les mêmes personnages, donc il devrait avoir un changement quand même. Et donc c'est comme ça qu'on dit oui, on ne craint pas les nouvelles élections. Donc voilà, c'est pas un problème pour nous comme parti. On a les moyens financiers, on a la motivation, on a les candidats, on a l'organisation du parti, donc ça va.
Voir l'AfD sortir comme la plus grande bénéficiaire de cette crise, c'est l'inquiétude de nombreux responsables politiques. À l'image du président fédéral Frank-Walter Steinmeier, qui a appelé les partis à revenir à la table des négociations. L'AfD qui a désormais les coudées franches pour dénoncer des partis traditionnels préoccupés uniquement par leur nombril. Une stratégie stratégie toutefois osée, selon Anne-Catherine Müller.
Ce sont les mêmes gens qui nous répètent à longueur de journée qu'ils veulent défendre la patrie, qu'ils veulent remettre l'État en marche, revenir à un passé glorieux. Ils se présentent face aux caméras pour dire qu'ils se réjouissent de l'absence de gouvernement. C'est complètement illogique et je pense que les électeurs s'en rendent compte.
Des électeurs qui peuvent déjà se préparer à de nouvelles élections, scénario aujourd'hui le plus probable.
Si la CDU d'Angela Merkel, les libéraux et les verts ne sont pas parvenus à résoudre leurs désaccords à propos de la politique énergétique ou de l'Europe, c'est bien la problématique de l'accueil des réfugiés qui fait apparaître les positions les plus inconciliables. L'exacerbation du débat face à l'afflux de migrants ne concerne pas seulement l'Allemagne, mais aussi la plupart des pays européens. Alors Daniel Vigneron a épluché pour Accent les derniers chiffres concernant les titres de séjour délivrés en 2016, publiés par Eurostat. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Angela Merkel continue-t-elle de payer son ouverture aux réfugiés ?
Oui, taxée sur sa droite de laxisme et d'irresponsabilité, elle a déjà subi un semi-échec lors des dernières élections générales de septembre qui ont vu l'arrivée au Bundestag de près d'une centaine de députés populistes ou d'extrême droite. L'affaiblissement de la CDU au Parlement la force désormais à tenter de réconcilier les libéraux du FDP et les Verts. Ces derniers n'admettent pas la limite de 200 000 acceptations de demandes d'asile chaque année, concession que la chancelière a déjà lâchée à son partenaire conservateur de Bavière, la CSU, et qui contente le FDP. De surcroît, les Verts réclament la fin des restrictions concernant le droit au regroupement familial pour les réfugiés n'ayant qu'un titre de séjour de moins d'un an.
Et ce regroupement engendre un afflux outre-Rhin.
136 000 titres de séjour ont été accordés pour ce motif l'an dernier par les autorités allemandes, soit 35 ou 40% de plus que dans les autres grands pays européens. Mais ce qui fait frémir les libéraux, c'est l'envol du nombre de bénéficiaires du droit d'asile ou de la protection humanitaire l'an dernier. Plus de 280 000 contre 30 000 en 2015. Cela signifie que compte tenu du décalage entre l'octroi du statut de réfugié et la demande de regroupement familial, l'immigration familiale risquerait d'exploser dans les prochains mois si le gouvernement devait faire sauter ses restrictions réglementaires comme le demandent les Verts.
L'Allemagne est-elle vraiment, Daniel, le pays qui légalise le plus de réfugiés ?
L'Allemagne a octroyé en 2016 asile ou protection à 3 fois plus de réfugiés que l'Italie et à 6 fois plus que la France. Mais le pays le plus ouvert en la matière reste encore le Royaume-Uni, qui est aussi la nation la plus accueillante d'Europe en termes d'immigration légale, avec 865 000 titres de séjour accordés l'an dernier à des ressortissants extra-communautaires sur un total européen de 3 300 000. C'est nettement plus que les 500 000 titres accordés par l'Allemagne ou que les 235 000 accordés par la France.
Pourtant, le Royaume-Uni a durci ses conditions d'accueil.
Oui, le Royaume a relevé l'an dernier le seuil de revenu annuel minimum pour qu'un migrant non européen puisse devenir résident permanent. Il a renforcé aussi les contrôles concernant les migrants illégaux. Mais le grand souci des Britanniques et la cause majeure du Brexit, c'est avant tout de limiter l'installation sur son territoire des ressortissants venus des nouveaux pays membres de l'Union européenne. Pour les non européens, le Royaume-Uni reste le pays le plus ouvert d'Europe, non seulement aux réfugiés, mais aussi aux étudiants qui sont 365 000 à avoir été admis l'an dernier. 5 fois plus qu'en France, qui est pourtant le deuxième pays d'accueil des étudiants.
Où en est-on justement en France ?
Le discours du nouveau gouvernement prône l'accueil des vrais demandeurs d'asile, mais la fermeture aux migrants économiques que des centres de contrôle offshore, notamment en Afrique, sont censés débusquer. Mais la réalité est tout autre. Dans l'Union, la France n'est que le 6e pays d'accueil des réfugiés, avec 44 000 titres de séjour accordés à ce titre l'an dernier, 2 fois moins que l'Italie. En fait, 70% des migrants légaux dans l'Hexagone viennent pour étudier ou au titre du regroupement familial.
Donc, on peut le dire, la France reste peu ouverte aux réfugiés.
C'est une évidence, les titres de séjour accordés pour des raisons politiques ou humanitaires représentent 18% de l'immigration légale en France. Cette proportion est de 34% au Royaume-Uni, de 42% en Italie et elle dépasse les 50% en Suède ou en Allemagne.
Qu'en est-il, pour terminer, de l'immigration du travail ?
Les ressortissants non européens admis pour travailler doivent partout justifier d'un contrat de travail. Cette immigration est assez limitée en Europe puisqu'elle ne représente que 25% du total des migrants légaux. Elle est très faible en France, 10% du total. Et ce qui est moins connu, proportionnellement encore plus faible en Allemagne, dont le marché du travail attire surtout des Européens. En revanche, le Royaume-Uni accueille en nombre plus de travailleurs extra-communautaires que l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède réunis. Mais le gros aspirateur de main-d'œuvre hors UE reste la Pologne, avec près de 500 000 travailleurs venus d'Ukraine, de Biélorussie ou d'autres ex-républiques soviétiques.
Daniel Vigneron du site myeurope.info. Merci Daniel.
À bientôt Catherine.
Une tombola pour lutter contre la fraude fiscale. L'idée a le mérite d'être originale et elle est utilisée depuis plusieurs années déjà par le Portugal, l'Italie ou encore la Slovénie. C'est au tour de la Grèce de s'y mettre aujourd'hui. Charlotte Stevenard.
Ce mois-ci, un millier de personnes devraient avoir l'heureuse surprise de voir arriver 1 000 euros sur leur compte en banque. Avec l'accord des créanciers, le gouvernement grec a affecté un budget de 12 millions d'euros à une loterie pour laquelle il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Il suffit de faire ses achats par carte bancaire, par virement ou sur Internet. Tous les montants comptent et ce sont les banques qui transmettent automatiquement les données. L'objectif, c'est de pousser les Grecs à utiliser ces moyens de paiement car ils sont traçables. Ils permettent donc d'éviter la fraude fiscale. Au ministère des Finances, une source rappelle qu'il ne s'agit là que d'une mesure parmi d'autres prise par le gouvernement d'Alexis Tsipras. Les retraités et les salariés qui souhaitent bénéficier d'une remise sur leurs impôts doivent, par exemple, déjà prouver qu'ils ont payé une certaine somme par carte bancaire. Et depuis le début de l'été, les magasins, les médecins, les avocats ou encore les clubs de sport sont obligés de se doter d'un terminal de paiement par carte. Des incitations qui visent donc les professionnels et les particuliers, mais pas les banques. Ces dernières continuent de prélever des frais importants, notamment pour les commerces qui ont des terminaux de paiement. Le ministère des Finances avance que les banques ont baissé ces montants de 3% à 0,8 à 1,5% de l'achat effectué, mais cette baisse concerne surtout les supermarchés et les professions organisées qui peuvent ainsi négocier en groupe. Les petits commerces, eux, continuent d'avoir des frais importants. Difficile de faire plus, selon le ministère, car les créanciers qui décident du budget de la Grèce n'acceptent aucune loi qui viserait à limiter ces frais, arguant du risque de distorsion de la concurrence. Malgré ces limites, la recette semble fonctionner. Selon la Banque nationale de Grèce, au premier trimestre de l'année 2016, l'utilisation accrue des cartes bancaires a permis d'augmenter les revenus de la taxe sur la valeur ajoutée de 600 à 900 millions d'euros.
C'est la championne européenne de l'agriculture de subsistance. Malgré l'accaparement massif des terres par des sociétés roumaines ou étrangères, plus de la moitié des surfaces agricoles en Roumanie appartiennent encore aux petits agriculteurs. Ils sont 4 millions. Ces petits fermiers font une agriculture à l'ancienne, dite de subsistance, donc ou vivrière, et ils ne sont pas reconnus par l'État roumain. C'est le reportage de Benjamin Ribou.
Depuis 2011, Mariana Gunchila, 46 ans, vit dans un petit hameau des Carpates, Lunca Gerti. Ici, pas de magasin ou même d'employeur, hormis un élevage de truites. Qu'ils soient retraités ou bien qu'ils aient un petit emploi à côté, tous les habitants travaillent donc chez eux. Avec son mari, Mariana possède un potager de 4000 mètres carrés, un beau verger et des bêtes. Elle est aussi la reine des bocaux dans le village.
L'automne, on met du fumier sur le terrain. De la bouse de vache, il y en a encore beaucoup dans la région. Chez nous, on n'utilise pas de substances chimiques. Et au printemps, on laboure. Il y a au moins une dizaine de femmes du village qui viennent m'aider. J'en paye certaines avec de l'argent, d'autres en produits finis. Elles aussi cultivent chez elles. Pour moi, le travail doit avant tout se faire en collectivité et doit aussi être respecté.
Mariana est originaire d'une commune à 80 km plus au sud. Sa mère travaillait à l'usine de conserve du coin qui, après 1989, a fermé. Il y a toujours eu un jardin et des animaux à la maison, un complément indispensable pour faire vivre la famille. Mariana cultive encore les terres là-bas aussi, arbres fruitiers, vignes ainsi que blé et maïs pour les bêtes. Ce jour-là, Gheorghe, son mari, teste une petite batteuse manuelle qu'il vient d'acheter pour trier le maïs.
On élève 10 à 15 porcs par an ainsi qu'une centaine de poules. En fait, on produit presque tout ce dont on a besoin. On n'achète quasiment rien. Des amis ou des connaissances viennent quelquefois acheter chez nous. Un petit coup de fil et hop, on tue un cochon. Ils peuvent aussi prendre des œufs dans le poulailler. C'est comme ça que ça se passe chez nous.
Comment ça fait ?
Les circuits courts et l'agriculture vivrière, c'est bien, mais Mariana rêve aussi d'ouvrir une pension et d'intégrer un réseau de distribution de produits traditionnels. Jusqu'à présent, ses tentatives d'accéder au marché n'ont guère fonctionné. Pour elle, les dés sont pipés et les petits comme elle ne sont pas soutenus. On la retrouve dans sa cave où sont entreposés ses 6000 bocaux.
Je ne saurais pas vous dire combien de bocaux il y a ici car je ne compte jamais. C'est difficile d'accéder au marché car tu ne peux pas vendre et produire en même temps. Ceux qui produisent au sens noble du terme, tu ne les vois pas sur le marché. Par contre, ceux qui font n'importe quoi et vendent des produits, disons, synthétiques, eux, tu les retrouves dans tous les rayons. Mais il y a aussi des Roumains qui font les choses correctement. Moi, j'ai un enfant de 7 ans et je veux qu'il grandisse dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles j'ai grandi. Qui sait, peut-être qu'il apprendra à faire comme moi. Oui, il coupe déjà le bois à la hache, comme le dit mon mari.
Mariana a ses habitués à qui elle vend ses 170 recettes conditionnées dans les bocaux. Si l'agriculture de subsistance permet d'être autosuffisant, sans statut social, retraite ou assurance médicale, les perspectives sont limitées. D'ailleurs, la population au milieu rural est vieillissante. Au-delà de la reconnaissance du rôle économique et du statut de ces petits fermiers, c'est toute l'agriculture paysanne roumaine qui souffre du mépris de la classe politique. En témoigne l'accusation récente faite par le sénateur Varujan Vojganian, que rappelle l'anthropologue Monica Stroé.
Il a culpabilisé les petits paysans qui faisaient de l'agriculture vivrière, les accusant en quelque sorte d'évasion fiscale. Il a stigmatisé ainsi toute une catégorie d'agriculteurs qui refuseraient, selon lui, de participer à l'économie officielle et à payer des impôts pour ce qu'ils produisent.
La sortie remarquée de ce sénateur n'est pas un cas isolé et illustre bien l'indifférence, voire l'hostilité de la classe politique à l'égard de ces 4 millions de petits fermiers, grands perdants de la désindustrialisation et de la mondialisation en Roumanie.
Un émoticône femme voilée qui fait son entrée dans les smartphones, cela ne plaît pas à tout le monde, surtout en Autriche, car c'est une lycéenne viennoise, fille de diplomate saoudien, qui a proposé à Apple cette émoji femme voilée. Le journal britannique The Times a même inclus Raïouf Aloumedi dans sa liste d'adolescents les plus influents du monde. Céline Béal.
Les émojis, ces petits symboles dont les jeunes ne peuvent plus se passer pour communiquer sur leur téléphone, sont-ils anodins ? En tout cas pas pour Raïouf Aloumedi. Cette fille d'un diplomate saoudien scolarisé en Autriche, révoltée par l'absence d'un émoji à son image, alors qu'il y en a déjà de toutes sortes, noir, blanc, chauve ou en turban, eh bien elle a entrepris de lancer un nouveau petit visage à destination de nos smartphones. Il est désormais disponible sur la dernière version du système Apple et représente une femme aux cheveux cachés par un voile, comme il y en a en fait des millions par le monde. Selon l'adolescente, ce voile est une partie essentielle de l'identité de ses porteuses, d'où son lobbying pour plus de diversité numérique. Celui-ci lui a maintenant valu d'être nommé par le Times britannique l'un des adolescents les plus influents au monde. Un honneur dont certains Autrichiens se seraient cependant bien passés. Depuis cette nomination, les commentaires se sont multipliés en ligne, dénonçant en particulier le voile comme un symbole d'oppression des femmes. Un élu viennois du Parti de la Liberté FPE a même qualifié l'action de la jeune fille de démence, déclenchant une vague d'insultes envers la lycéenne de 16 ans. La preuve que ce symbole musulman n'a pas fini de polariser dans ce vieux pays catholique, même dans sa version émoji.
À la réalisation d'Accent, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur RFI.fr ou sur notre page Facebook et restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, les infos.